Chapitre 21. Jour 2. Rappel. J'ai pris l'un des premiers Eurostars du matin. La gare du Nord était pleine à craquer. Je me suis retrouvée avec un groupe de collégiens en partance pour la perfide Albion. Probablement de l'âge de Louis. J'ai d'abord eu le réflexe de survie de la bourgeoise coincée. Je me suis dirigée vers le contrôleur, bien décidée à tenter de changer de wagon. Et puis je me suis ravisée. Je me suis assise à ma place. J'étais dans un carré avec trois gosses de cinquième. La cinquième D du collège Anatole France de La Roche-sur-Yon. J'ai discuté foot et cartes Pokémon. Ils ont été abasourdis que je puisse tenir une telle conversation. Je leur ai montré la vidéo de mon impro avec Maître Gims et j'ai gagné leur respect éternel. Ils m'ont demandé un autographe. J'avais touché l'étoile, ma signature acquérée par ricochet une valeur inestimable. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai oublié mon nombril et ça m'a fait du bien. Une fois parvenu à la gare de Saint-Pancras, j'ai pris un taxi pour Notting Hill. Je n'ai pas donné l'adresse exacte. J'avais besoin de quelques minutes de marche, d'un sas de décompression. Je ne voulais pas débarquer devant la galerie de Matthew, je voulais observer de l'extérieur avant d'entrer. Je n'aurais pas pu supporter une nouvelle attaque de Déborah. La dernière datait d'il y a 13 ans, mais sa douleur était encore vive. Je me suis postée sur le trottoir d'en face. J'avais mis des lunettes de soleil et pris soin d'arborer une coiffure, une allure, des vêtements radicalement différents de ceux que Matthew connaissait. Je voulais pouvoir choisir d'y aller ou pas, jusqu'au dernier instant. Je ne voulais pas courir le risque qu'il prenne les devants, qu'il me voie avant que je ne le décide. Il était là, seul, penché sur son smartphone. Je l'ai trouvé vieux. Il avait encore vieilli, comparé aux photos découvertes la veille sur Google. J'ai inspiré, expiré, trois fois, puis encore trois fois. J'ai poussé la porte, une petite sonnette hors d'âge à tinter. Matthew a levé les yeux vers moi. Il a changé de couleur. Il m'a reconnu tout de suite. A murmuré mon prénom et simplement « Qu'est-ce que tu fais là ?» Puis il a souri. J'ai été projetée 15 ans en arrière. Non, il n'était pas si vieux. Il était encore très séduisant. J'ai baissé les yeux et me suis demandé un instant si Louis avait été conçu sur ce sol froid. Une vague de souvenirs est montée en moi. Âpre, beau, terriblement présent. Mon portable a vibré. Je l'ai laissé vibrer. Pas maintenant. Je suis occupée. Je dois annoncer au père de mon enfant qu'il a un fils de presque 13 ans. Un magnifique adolescent qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Dans le coma. À moins de 2 jours d'une sentence potentiellement dramatique. J'ai hésité. Une sueur glacée a envahi mon dos. Ma respiration s'est accélérée. J'ai soudain pris conscience de la sadique absurdité de la situation. Quel genre de femme étais-je donc? Pouvais-je vraiment déverser toute cette histoire sans filtre aujourd'hui? Malgré tout le mal que m'avait fait Matthew, pouvais-je lui annoncer coup sur coup ces deux nouvelles, 13 longues années après? Que savais-je de sa vie d'aujourd'hui? Comment encaisserait-il cela? Peut-être était-il cardiaque, peut-être allais-je le tuer en lui jetant tout ça à la figure. Pourrais-je alors encore regarder mon fils en face? Je me suis appuyée à la poignée de la porte vitrée. Louis voulait voir son père. Juste une fois. Je venais de le voir. Juste une fois. Ma mission était accomplie. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai senti mes genoux flancher, mais ils sont restés solides. Je n'ai rien dit. J'ai franchi le seuil à reculons. Matthew a avancé de quelques pas. J'ai reculé encore. Mes pieds ont atteint le trottoir de Portobello Road. J'ai couru. Une légère bruine a fouetté mon visage et les lunettes de soleil que je n'avais pas ôtées. Matthew m'a appelé plusieurs fois dans la rue. Il a tenté de me rattraper, mais je savais qu'il ne pourrait pas laisser la galerie sans surveillance, qu'il abandonnerait vite. Mon portable a vibré une nouvelle fois. Pas maintenant, je suis occupée à fuir ma vie une nouvelle fois. J'ai finalement grimpé dans un bus et me suis laissée porter. Les larmes coulaient sur mes joues. La pluie inondait les vitres de ce bus à Impérial étrangement désert. J'ai laissé mon portable vibrer, vibrer encore. Plus il vibrait, plus je savais. Personne n'avait essayé de me contacter avec une telle insistance depuis des lustres. Il n'y avait qu'une possibilité. Un seul motif pour lequel quelqu'un s'acharnerait ainsi à tenter de me joindre. J'ai écouté le dernier message. C'était ma mère. Elle me demandait de ne pas écouter les messages précédents et de la rejoindre à l'hôpital de toute urgence. Sa voix tremblait. Elle avait pleuré. Les messages précédents, il y en avait 4. 3 de ma mère et un autre émanant d'un numéro que je ne connaissais que trop. Le service de réanimation de Robert Debré. J'ai suivi la consigne de ma mère. J'ai éteint mon téléphone, l'ai rangé. J'ai sorti de mon sac le carnet de Louis. Je l'ai caressé, l'ai serré sur mon cœur défoncé. J'ai tourné les pages une à une, lentement, jusqu'à la dernière. J'ai lu ce que mon fils me demandait de faire. La pluie a cogné plus fort. Je n'ai pas pu retenir les mots qui se sont formés seuls dans mon esprit. La dernière page. Les dernières volontés. Je me suis levée. J'ai abandonné mon téléphone à une jeune femme assise près de moi. Elle m'a remerciée, incrédule. Puis je suis descendue.